Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
En Irak, les chrétiens sont de plus en plus nombreux à prendre la route de l'exil par crainte des exactions attribuées aux djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Dimanche, le pape François a exprimé son inquiétude. Vous entendrez Mgr Georges Casmoussa dès le début de ce magazine. En Sicile, le petit port de Pozzallo ne parvient plus à faire face à l'afflux d'immigrés, alors qu'un nouveau drame de la mer a suscité émotion et polémique dans la péninsule. Les centres d'accueil sont tous remplis. Les jésuites italiens interpellent sévèrement les institutions européennes. Pas de vacances pour le pape François qui ne se ménage pas. Malgré sa fatigue, il multiplie les activités. Ce lundi, il recevait le nouveau roi d'Espagne. En fin de semaine, il est attendu dans le Molise et on annonce déjà pour fin septembre une grande rencontre avec les personnes âgées Place Saint-Pierre, tandis que ses 8 cardinaux conseillers se retrouvent cette semaine au Vatican pour poursuivre l'étude des nombreux chantiers de ce pontificat. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant ont annoncé l'établissement d'un nouveau califat islamique sur les régions conquises en Irak et en Syrie. Dimanche, le pape François a exprimé son inquiétude face à la situation dans le pays. La violence engendre la violence. Le dialogue est l'unique chemin vers la paix, a-t-il déclaré, demandant aux dirigeants irakiens de tout faire pour préserver l'unité nationale et éviter la guerre. Le Saint-Père a exprimé sa proximité avec le peuple irakien, surtout avec ses milliers de familles qui ont dû abandonner leur maison face à la menace djihadiste. Parmi ces familles, beaucoup de chrétiens. Certains ont pu regagner la ville de Karakoche, au nord de l'Irak, où les djihadistes ont été repoussés par les combattants kurdes. C'est là que nous avons joint Mgr Georges Casmoussa, l'ancien archevêque syro-catholique de Mossoul.
La situation est calme, les gens, surtout les jeunes, commencent à rentrer chez eux. Et bon, la confiance gagne. Si le calme continue comme il est maintenant, tout le monde va rentrer. Parce que c'est pas très gai d'être dans une grande salle sans air conditionné, sans ventilateur et même sans service rudimentaire. Il y a l'armée kurde qui a maîtrisé la situation et qui continue de garder la paix donc ici et de défendre la ville. Mais voilà, deux jours, grâce à Dieu, il n'y a aucun tir ni de l'un ni de l'autre côté. Mais l'armée irakienne n'existe plus sur les lieux.
Le pape François, lors de l'Angélus ce dimanche, a appelé à prier pour la paix en Irak. Il a également appelé les dirigeants irakiens à préserver l'unité nationale du pays. Comment avez-vous accueilli cet appel du pape François?
Voilà, nous sommes très contents que cet appel soit émané du Saint-Père et qu'il y ait une suite vraiment, non seulement pour la dignité nationale, mais aussi que les grandes puissances puissent comprendre les situations particulières de ces pays et qu'elles n'aient pas seulement leurs intérêts donc dans leur jugement. Parce que vous voyez, il y a toute une nation, maintenant toute la nation irakienne est en danger de perdre son identité, de perdre sa paix. Il n'y a que le désordre qui est dans l'horizon. Alors, nous attendons des grandes puissances qu'elles entendent l'appel du Saint-Père pour regarder le côté humain dans toute cette affaire-là. Autrement, c'est une autre Syrie qui commence.
On se rappelle évidemment la terrible guerre confessionnelle qui a ravagé le pays en 2006-2007. Selon un responsable irakien, la situation est beaucoup plus grave maintenant. Partagez-vous cette constatation, cette analyse?
Je crois que c'est beaucoup plus grave maintenant parce qu'il y a différents... Il y a surtout les forces islamistes fondamentalistes, les plus fondamentalistes qui existent, non seulement pour imposer une religion pure et dure, mais aussi pour imposer une manière de vie à tout le monde, une manière de penser. À Mossoul même, ils ont mis à bas non seulement la statue de la Vierge qui était sur la terrasse de l'évêché, mais aussi certains monuments historiques ou culturels, des personnages même de la poésie arabe, de la musique arabe, de l'histoire de la ville, qui ont été tous mis à bas sous prétexte que c'était des idoles. Vous voyez alors quelle civilisation on attend.
Monseigneur Kasmoussa, quel est l'appel que vous souhaiteriez lancer à la communauté internationale?
Mais voilà, tout ce que je viens de dire est un appel à la communauté internationale de sauvegarder l'existence de ces petites minorités chrétiennes qui restent. Vous savez, si Karakoche était tombée de bon, c'est toute la chrétienté de l'Irak qui est tombée. Alors, notre appel, c'est de sauvegarder cette chrétienté et de composer avec son existence pour l'avenir de ce que vous appelez la démocratie, pour l'avenir du vivre ensemble, pour l'avenir de la, pas du dialogue, mais de la coexistence islamo-chrétienne. Et puis, nous ne sommes pas emportés de quelque part. Nous sommes dans notre propre pays et nous sommes là avant l'islam. Donc, nous exigeons de la communauté internationale de ne plus croire comme si nous étions chrétiens venus avec les croisés ou bien convertis de l'islam ou bien emportés de quelque part. Nous sommes autochtones, donc nous tenons mordicus à notre terre pour rester et avec liberté, avec dignité et avec nos droits civils.
Monseigneur Kasmoussa, ancien archevêque syro-catholique de Mossoul, interrogé par Manuela à Fidji. Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque des terroristes islamistes contre 5 églises dans des villages situés dans les alentours de Chibok, la ville où plus de 200 lycéennes avaient été enlevées mi-avril dans le nord-est du pays. Les victimes sont des fidèles qui assistaient ou se rendaient à la messe. Certains ont été abattus alors qu'ils tentaient de fuir. Parmi eux, des femmes et des enfants. Les évêques catholiques ont convoqué à partir de ce mardi une initiative de prière nationale pour la paix dans le pays, la paix mise à dure épreuve par les violences de Boko Haram. Cette initiative de prière durera 6 mois. Une intention de prière différente a été choisie pour chacun des 6 mois. Ainsi, au mois de juillet, on priera pour la libération de toutes les personnes retenues en otage au Nigeria, au mois d'août pour ceux qui souffrent des conséquences des violences, au mois de septembre pour les membres des forces de l'ordre qui ont été tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, il y a pratiquement un attentat par jour au Nigeria. En mai dernier, la France avait organisé une conférence à Paris sur la menace de Boko Haram avec le président nigérian et d'autres chefs d'État de la région. Mais la mobilisation contre Boko Haram reste du domaine du symbolique. Les chrétiens du Kosovo, serbes et albanais, ils représentent 7% de la population majoritairement musulmane. Leur situation de minorité les expose à des vexations et à des mesures souvent discriminatoires. Un état de fait dénoncé par Solidarité Kosovo, une association française créée en 2004 qui s'est donné pour but d'apporter une aide concrète et efficace à ces populations chrétiennes du Kosovo. Circonscrites dans des enclaves, ces familles chrétiennes, souvent pauvres et nécessiteuses, ont fait le choix de rester sur ce territoire encore profondément marqué par les conséquences de la guerre. On en parle avec Ivana Gajic, elle est chargée de communication et des relations institutionnelles au sein de Solidarité Kosovo.
Ce sont des villages qui sont cernés de fils barbelés et où se concentrent en fait bien toutes les familles chrétiennes. Pourquoi ? Parce que le fait d'être ensemble, ça permet un petit peu de mutualiser tous les biens, d'être ensemble, de ne pas être isolé dans un village. Il faut savoir qu'avec Solidarité Kosovo, nous leur rendons très régulièrement visite pour leur apporter des soins de premier secours. Et nous pouvons témoigner de l'angoisse dans laquelle ils vivent parce qu'ils sont traumatisés par toutes les agressions à répétition qu'ils ont subies depuis la guerre. Ils sont clairement victimes de violences ouvertes qui les visent en tant que chrétiens. Et cette violence qui est multiforme, physique, matérielle, qui se répète et à chaque fois qui ravive ces vieilles blessures. Déjà, on se rend compte en traversant le Kosovo d'une enclave à l'autre qu'il y a des sanctuaires qui sont désaffectés, des cimetières chrétiens qui sont saccagés et qui entretiennent à eux seuls finalement le souvenir nostalgique des communautés chrétiennes disparues qu'on nous évoque.
Outre les vexations que vous venez de citer, vous dénoncez également le fait que ces chrétiens soient considérés, soient traités comme des citoyens de seconde zone.
Les chrétiens qui restent au Kosovo, ils connaissent le sort finalement de citoyens de seconde zone. Ils n'ont pas de perspective sociale parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils subissent une ségrégation de l'expulsion parce qu'ils sont sans emploi, ils sont placés hors du système de soins, ils sont interdits de transport public. Donc on comprend bien qu'ils ont une vie sociale et professionnelle atrophiée et ils ont un espace de vie limité parce puisque lorsqu'ils veulent sortir de leurs enclaves, ils savent qu'ils risquent l'accrochage, qu'ils risquent l'agression. Donc très souvent, ils n'y sortent qu'en cas de très grande urgence, et c'est pour essayer de se faire soigner dans un hôpital serbe qui se trouve à des centaines de kilomètres de chez eux. Donc, en conclusion, je dirais qu'en 2014, le Kosovo Metohije, c'est l'unique territoire en Europe qui figure dans l'Atlas de l'intolérance. Donc, c'est un atlas qui a été publié par le Figaro magazine et qui répertorie les persécutions contre les chrétiens.
Solidarité Kosovo veut alerter aujourd'hui sur un cas bien spécifique, celui d'un monastère qui serait apparemment victime d'actes d'intimidation d'extrémistes.
C'est le monastère en fait orthodoxe serbe de Visoki Dečani, qui est un édifice chrétien qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous avons été alertés par les moines de ce monastère, puisqu'ils ont pris la décision d'édifier une haute muraille de 2,5 mètres. Ce monastère a constamment été menacé depuis 1995. Par des extrémistes albanais. Le monastère a été attaqué par 4 fois en l'espace de 15 ans, donc 2 fois l'arme de guerre. Et finalement, ces tentatives de destruction de ce monastère ont été avortées puisque le monastère est placé sous la protection des soldats de la KFOR, qui est cette force donc armée de l'OTAN, qui garde le lieu saint en son entrée. Et nous avons reçu de la part des moines qui nous ont relayé une très mauvaise nouvelle, c'est que le commandement de l'OTAN, qui assurait donc la protection de ce monastère, a annoncé le retrait de ses forces d'ici la fin de l'année.
Ivana Gajic de l'association Solidarité Kosovo, interrogée par Manuela à Fiji. Encore des morts en Méditerranée, des corps sans vie ont été retrouvés dans la nuit de dimanche à lundi au large de la Sicile, à bord d'une embarcation qui transportait 590 migrants. Entassés dans la partie avant du bateau, la plus étroite, ils sont probablement morts asphyxiés en raison du manque d'espace. À Rome, le centre Astalli, dirigé par les jésuites, presse l'Europe d'intervenir. Jean-Baptiste Cocagne.
Une énième tragédie qui illustre les conditions dans lesquelles voyagent les personnes fuyant les guerres et les persécutions. On ne meurt pas seulement à cause des tempêtes et des mauvaises conditions climatiques, s'insurge le père Giovanni Lamanna, président du centre Astalli, mais aussi à cause du surpeuplement d'embarcations toujours plus délabrées sur lesquelles des passeurs sans scrupules entassent des centaines de personnes, contraintes qui plus est de débourser des sommes considérables. Une expérience qui laisse des traces parmi les rescapés, parfois plus douloureuses que les traumatismes qu'ils ont subis dans leur pays d'origine. Le centre Astalli réaffirme l'urgence de créer des couloirs humanitaires sûrs pour les demandeurs d'asile. Il critique la passivité des institutions de Bruxelles et quant à l'opération Mare Nostrum lancée par l'Italie à l'automne 2013, elle ne représente selon les jésuites qu'un premier pas. Il faut trouver d'autres solutions pour protéger les victimes innocentes des guerres et des persécutions. Si l'Union européenne ne trouve pas dans de brefs délais une réponse efficace à cette tragédie, avertit encore le père Lamanna, cela voudrait dire qu'elle est réduite à une assemblée d'États incapables d'avoir une vision commune au-delà de leurs frontières et dont le seul souci est de veiller à leurs intérêts nationaux. Et le centre Astalli se demande avec amertume si, au fond, l'Union européenne n'a pas déjà renoncé aux valeurs qui sont à l'origine de sa création.
Depuis le début de l'année, selon les autorités, plus de 65 000 migrants et réfugiés fuyant les guerres ou la pauvreté ont débarqué en Italie. Le record de 2011, où le nombre de migrants avait atteint les 63 000 personnes en raison des printemps arabes, pourrait donc déjà être dépassé alors que l'été ne fait que débuter et que le beau temps pourrait inciter des dizaines de milliers d'autres réfugiés à tenter la traversée. Après la Calabre, le 21 juin, une autre région du sud de l'Italie, le Molise, se prépare à accueillir le pape François en fin de semaine. Le Saint-Père y passera toute la journée de samedi. Une journée dense, jalonnée de nombreux rendez-vous. Audrey Radondi.
Première étape, Campo Basso, chef-lieu de la province, dont l'archevêque, Mgr Giancarlo Maria Brigantini, est bien connu pour son engagement contre la criminalité organisée. C'est lui qui avait été chargé par le pape François d'écrire les textes des méditations du chemin de croix traditionnel. Le 18 avril dernier au Colisée, dès 9h à Campo Basso, le Saint-Père s'adressera au monde du travail et de l'industrie avant de présider une concélébration eucharistique en plein air. Après la messe, il rencontrera les malades à la cathédrale. Il déjeunera avec les pauvres pris en charge par Caritas. Puis il se déplacera en hélicoptère jusqu'au sanctuaire de Castelpedroso où il s'adressera aux jeunes des Abruzzes et du Molise. La journée se terminera à Isernia, la ville natale du pape Célestin V. Ce moine ermite qui, au XIIIe siècle, abdiqua après 5 mois de pontificat et qui fut canonisé en 1313. Les évêques des Abruzzes et du Molise ont voulu convoquer une année jubilaire pour célébrer le 8e centenaire de la naissance de ce pape remarquable qui a consacré sa vie à la recherche de Dieu. À Isernia, le souverain pontife visitera les détenus, rencontrera des malades et enfin sur la place de la cathédrale, il s'adressera à la population dans le cadre de l'année jubilaire consacrée à Saint Célestin V. Son retour au Vatican est prévu vers 20h15.
Et le 28 septembre prochain, le pape François rencontrera des personnes âgées et des grands-parents du monde entier. Cette journée qui vise à rendre grâce pour la bénédiction que constitue une longue vie se déroulera sur la place Saint-Pierre à l'initiative du Conseil pontifical pour la famille. Le grand âge n'est pas un naufrage, mais une vocation, souligne le président de ce dicastère, Mgr Vincenzo Paglia. L'espérance de vie a augmenté, mais, regrette-t-il, aucune réflexion adéquate ne s'est développée sur le plan politique, économique et culturel. L'objectif du Conseil pour la famille est d'attirer l'attention sur cette étape importante de l'existence humaine pour que les personnes âgées ne soient plus considérées seulement comme un objet d'attention ou de soins, mais comme les acteurs d'une nouvelle perspective de vie dans l'Église et dans la société. Le nouveau roi d'Espagne, Felipe VI de Bourbon, a été reçu par le pape François ce lundi à la mi-journée au Vatican. Le souverain pontife était accompagné de son épouse Laetitia. Le roi Felipe effectuait sa première visite à l'étranger après sa proclamation le 19 juin dernier. Sa dernière visite au Vatican remontait à mars 2013 à l'occasion de l'investiture du pape François sur la place Saint-Pierre. Il était alors prince des Asturies. Le couple royal s'est également entretenu avec le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, accompagné du sous-secrétaire pour les rapports avec les États, Monseigneur Antoine Camilleri. Le Saint-Siège, qui s'est félicité de cette visite, a insisté sur l'importance de favoriser le dialogue et la collaboration entre l'Église et l'État pour le bien de toute la société espagnole. Des dossiers à caractère international et régional ont également été évoqués, avec une attention particulière pour les zones de conflit. Le roi Juan Carlos, qui abdiquait le 18 juin, avait été reçu au Vatican le 28 avril dernier avec son épouse Sofia. Le pape François demande aux jeunes catholiques hollandais d'être des révolutionnaires selon le modèle des Béatitudes qui offre un programme de vie nouveau, pur et intense. Il l'affirme dans un message au Festival national de la jeunesse catholique des Pays-Bas. Pas question de vivoter, il faut savoir viser loin, prendre de la hauteur, recommande le Saint-Père. Citant le bienheureux Pier Giorgio Frassati, étudiant italien intrépide et généreux mort à 24 ans, le pape François affirme que vivre sans la foi, sans aucun patrimoine à défendre, sans une vérité à soutenir par une lutte de tous les instants, ce n'est plus vivre mais gâcher sa vie. Les béatitudes qui sont au cœur des préparatifs des prochaines JMJ de Cracovie proposent un modèle de bonheur contraire à la logique du monde. Ce que Jésus appelle bienheureux sont pour le monde des perdants, des êtres inutiles. Le monde en effet glorifie le succès coûte que coûte, la richesse, le pouvoir, l'affirmation de soi au détriment des autres. Au contraire, quand nous contemplons Jésus dans sa pauvreté, dans la pureté de son cœur, sa miséricorde, nous comprenons la beauté de notre vocation chrétienne et nous n'hésitons pas à prendre le chemin qui conduit au bonheur authentique. Dans son message, le souverain pontife exhorte donc les jeunes des Pays-Bas à dire non à une culture éphémère et superficielle, non à la culture du déchet qui les considère à tort incapables d'affronter les grands défis de leur vie. À partir de ce mardi, le Vatican accueillera la 5e réunion du Conseil des 8 cardinaux chargé d'aider le pape dans la réforme de la curie romaine et le gouvernement de l'Église. Cette rencontre se poursuivra jusqu'au vendredi 4. La précédente s'était tenue fin avril. Il n'y aura pas d'audience générale mercredi prochain. Et puis sachez qu'un nouvel accord vient d'être signé entre l'autorité d'information financière du Vatican et les États-Unis. Il s'agit d'un accord d'échange d'informations, un premier accord bilatéral de l'AIF dans son rôle de supervision et de régulation financière au sein du Saint-Siège et de l'État de de la Cité du Vatican. Selon le bureau de presse du Saint-Siège, cet accord représente un renforcement significatif de la coopération internationale entre le Saint-Siège et les États-Unis. D'autres accords du même type devraient bientôt être signés avec d'autres pays comme conséquence de la nouvelle législation vaticane datant de l'automne 2013 concernant les finances du petit État et notamment le rôle de l'AIF. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.